Je vous entends. Je vous entends dans mon retour. Ouais, je t'entends. Et je l'entends aussi. Je sais pas si elle a quelque chose, mais je l'entends dans mon. Dans... Ah, c'est peut-être ça passe dans ton micro, peut-être. D'accord. Bonjour à tous. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Bienvenue dans ce lieu. Je suis extrêmement émue de faire ce retour. C'est mon premier pour moi. Peut-être que pour certains, c'est la deuxième fois que vous revenez dans ce lieu. Mais en tout cas, je suis. On est vraiment honorés, moi et l'équipe, très 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 honorés de pouvoir faire cette louange avec vous. Vous nous avez vus peut-être pendant des semaines et des semaines derrière l'écran et je prends conscience que c'est une grâce infinie de pouvoir louer avec le corps de Christ. Alors vous qui nous suivez peut-être, vous aussi, derrière votre écran, vraiment profitez de ce qui va ressortir du fait qu'on est tout de même tous ensemble dans ce lieu et vraiment recevez la présence de Dieu là où vous êtes, dans votre salon, là où vous êtes vraiment, soyez bénis par cette louange qui va s'élever. Le premier chant que nous allons prendre en chant dit « Voici le jour que Dieu a créé ». Je vous invite à le chanter avec force, avec joie, même si vous êtes dans votre petit périmètre, tapez des mains, chantez vraiment, profitons de ce que nous sommes en famille pour louer Dieu. Vous êtes d'accord? Vous êtes prêts derrière votre écran? Hallelujah.
Toi, je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, ma confiance est en toi. Voici le jour, oh oh oh, oh
voici
oh,
le jour,
oh, oh oh oh. Mes craintes je laisse au loin, je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, ma confiance est en toi. Voici le jour, oh oh oh, oh
voici
oh,
le
jour. Oh, oh, oh.
Nous allons chanter, pour toi Seigneur je vivrai.
Pour toi, Seigneur, je vivrai.
Pour toi, Seigneur, je vivrai.
Fondé sur ta vérité.
Fondé sur ta vérité.
Pour toi, Seigneur, je vivrai.
Pour toi, Seigneur, je vivrai.
Fondé sur ta vérité.
Sur ta vérité. Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mes craintes sont entre tes mains. je te suivrai sur le chemin. Ma confiance est en toi.
Je n'aurai pas peur.
Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Oh, 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 oh.
Voici le
jour. Voici le jour.
Alléluia.
Amen. Alléluia. Jésus, nous sommes venus pour te voir. Nous sommes venus, Seigneur Jésus, pour contempler ta face. Émerveillé.
Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi.
Je suis
émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi.
Il n'y a personne.
Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi
sur toute la terre.
Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom.
Tu fais
de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom.
Chantons
Alléluia, 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 yeah. Puissant est ton nom. Alléluia, 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 yeah. Puissant est ton nom.
Admirer ta grandeur, ta puissance. Nous voulons chanter si grand est ton nom, parce que rien ne te surpasse. Si grand est ton nom,
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 si grand.
Si grand est ton nom.
Si grand est ton nom.
Nous dépasse. Ton cœur de père nous émeut. Nous sommes si indignes de ton amour. Nul n'est comme toi, Seigneur. Dans ce lieu ou chez vous, je prie que la puissance de Dieu, sa présence vous inonde, qu'il puisse vous convaincre de sa grandeur, de sa puissance, que son onction rafraîchissante vous visite, qu'elle vous restaure, qu'elle vous guérisse, car nul n'est comme lui. Oui, tous verront combien Dieu est bon. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ton sacrifice.
Tu me libères.
Christ mon sauveur. Tu as donné ta vie pour moi, Jésus. Tu m'as sauvé. Je veux te dire merci, Seigneur Jésus. Tu m'as donné la vie. Tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Tu as rempli mon cœur. Oui, tu m'as mis à part. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Tu m'as donné la vie. Tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Tu as rempli mon cœur. Oui, tu m'as mis à part. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, comme je t'aime, comme je t'aime,
comme je t'aime, Seigneur,
comme je t'aime, comme je t'aime.
Tu m'as donné,
tu m'as donné la vie, tu m'as. Les yeux, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Tu as rempli mon cœur. Oui, tu m'as mis à part. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur.
Merci.
Seigneur, que tu veux notre cœur et que nous voulons être en relation avec toi. Alors merci encore aujourd'hui d'être présent dans nos vies. Merci encore aujourd'hui de venir nous visiter, de visiter ton église. Parce que tout ce que tu veux, c'est cette relation avec nous. Et pour cela, nous voulons te remercier. Nous voulons te dire que nous te portons l'adoration de nos cœurs. Nous te portons la reconnaissance. Merci Jésus d'être présent dans nos vies. Merci d'être présent dans ton église. Alors si ce matin vous voulez dire simplement un merci à Jésus parce qu'il est venu dans votre cœur, qu'il avait fait la promesse que votre cœur serait changé et que votre esprit serait renouvelé, qu'il avait fait la promesse que ce trésor qu'il a placé dans votre cœur vous nourrirait, eh bien aujourd'hui, remerciez-le. Dites-lui, Jésus, tu es ma vie, tu es mon trésor, tu es mon tout et pour cela, merci. Tu renouvelles, tu restaures, tu guéris. Et il a pu le faire, mais encore aujourd'hui, il veut le faire dans votre vie. Alors merci Jésus pour qui tu es. Merci pour ce que tu nous apportes. Merci d'être présent dans ton église. Et à toi reviennent la gloire et l'honneur encore ce matin. Amen. Prenez peut-être une petite seconde et dites merci à Jésus pour qui il est. Et pour ce qu'il a fait dans votre vie. À toi soit l'honneur. Et si vous êtes chez vous, prenez également ce temps. Arrêtez tout ce que vous faites. Et prenez ce temps pour Jésus. Parce qu'il le mérite. Il vous a donné la liberté. Il vous a donné une nouvelle vie et seul lui pouvait le faire. Et j'ai un secret ce matin. Il vous aime. Il vous aime d'un amour infini. Et ce qu'il veut, c'est votre bonheur. C'est ton bonheur. Amen. Vous savez, quelque chose a touché mon cœur, et ce quelque chose, c'était l'amour que Jésus a pour nous, a pour vous. Et on a bien réfléchi, et je voulais vous dire ce matin que l'Église vous aime, que vous soyez présent ici, que vous soyez présent chez vous, je tiens à vous dire que l'Église vous aime. Vous aime parce que vous êtes important à ses yeux, parce que nous appartenons tous à la même famille. L'Église vous aime, mais quelqu'un vous aime encore plus que l'Église. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Alors aujourd'hui, on est en connexion sur Internet. On est en connexion en physique ici, mais nous avons tous le même Seigneur. Nous avons tous la même espérance. Alors, je suis heureux ce matin. Et j'espère que vous l'êtes également. Je vous en prie, prenez place. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous ceux qui sont présents. Bienvenue à tous ceux qui sont sur Internet. C'est une réelle joie encore que de partager ces moments et d'être encore dans la présence du Seigneur. Comme vous pouvez le voir, l'Église a repris en physique, mais l'Église continue également sur Internet. Petit à petit, les choses se mettent en place et nous espérons que très bientôt, nous pourrons nous retrouver à nouveau, échanger, partager. Mais j'ai une bonne nouvelle. Jésus veut toujours être en relation avec vous. Et l'Église a mis en place plusieurs choses. Vous avez la possibilité d'écouter les directs. Vous avez la possibilité de revenir sur les réunions où il y a eu des messages qui ont été partagés, où il y a eu des échanges. Nous avons besoin de continuer à nous renouveler avec le Seigneur, de continuer à approfondir la Bible. Et pour cela, nous avons les réunions du mardi soir qui ont lieu sur Facebook Live et qui ont également lieu sur YouTube Live. N'hésitez pas à venir, à vous faire du bien. Nous avons également des réunions le jeudi. Ce sont des réunions plus d'échanges, de partage. Il suffit d'envoyer à l'adresse suivante com@moneglisearparis.fr et un lien vous sera envoyé et vous pourrez participer à des réunions Zoom. L'Église est très heureuse de vous accueillir et vous avez la possibilité, vous qui êtes chez vous, de revenir nous voir si vous en avez la possibilité. Vous pouvez aller sur le site de l'Église et vous inscrire. 4 cultes peuvent être mis à disposition. Nous sommes actuellement au 3e culte. Ne vous inquiétez pas, toutes les normes de sécurité sont respectées. Si vous avez la possibilité, venez partager. Venez avec nous. Et si vous pouvez rester chez vous, si vous ne pouvez pas venir, restez chez vous et prenez ces temps de partage et d'échange. Nous tenons à vous remercier pour les dîmes et les offrandes. Pendant tout ce temps, l'Église a continué à vivre grâce à vous et continuera grâce à vous. Vous avez la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, pour ce que le Seigneur aura mis dans votre cœur, de faire des dons, soit directement depuis le site internet, tout en haut à droite du site, soit vous pouvez également, à la sortie de l'église, un tronc vert sera à votre disposition. Nous sommes très heureux de se retrouver et nous sommes très heureux également de nous voir, de partager. Je vais laisser la suite à Léandro qui va nous apporter le message, la parole du Seigneur. Merci Léandro d'avance pour ce que tu vas nous apporter et soyez tous bénis.
Amen. Ça va bien? On donne la bienvenue à tous nos internautes. C'est juste incroyable. Ce matin, les amis, on est en direct. Donc depuis ici, ils ont profité de ce moment de louange. On veut les remercier tous. Merci d'être avec nous. On vous attend ici. Inutile de le répéter. C'est ici votre place. Hein? Pas là-bas où vous n'êtes pas encore rhabillés. Il faut le dire, il y a des gens qui ne sont pas encore levés. Quoi. Et c'est une joie pour moi de pouvoir apporter le conseil de Dieu particulièrement ce matin. Et je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvés dans une situation tellement particulière, dans une saison de vie où vous attendez une réponse de Dieu, où vous êtes mis à part, vous avez prié, où vous vous êtes consacré au Seigneur, et là vous avez une réponse mais qui n'est pas du tout à ce que vous attendiez. Ça vous est déjà arrivé? Je parle à des êtres humains ou pas? Ok. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois d'avoir ce qu'on appelle des réponses inattendues. Les réponses inattendues, ce ne sont pas forcément des mauvaises réponses. Ce sont juste des réponses pas comme nous, on les voudrait. Et il y a quelqu'un dans la Bible qui a vécu ça, qui a vécu une réponse inattendue, quelqu'un en particulier. Je souhaite vous parler du prophète Habakkuk. Vous connaissez le prophète Habakkuk? Un petit prophète, non pas à cause de sa taille, mais juste que bibliquement, ça s'appelle les petits prophètes. Et ce prophète-là, il avait une particularité à ce moment-là où il exerçait son ministère, c'est que la ville, la cité dans laquelle il habitait allait être envahie par les Babyloniens au moyen des Chaldéens, en fait. Les Chaldéens, c'était les personnes qui allaient envahir la ville. Et le peuple, alors, il va être saisi de peur, il va être dans la confusion, il va y avoir une confusion morale, il va y avoir même une nouvelle crise politique à ce moment-là. Et je suis étonné de voir comment est-ce que Dieu interpelle le prophète à la confiance. Et je crois que c'est une parole pour nous, dans ces temps qui peuvent être comme des défis, dans ces temps qui peuvent être comme plein de difficultés, je crois que Dieu nous appelle à avoir confiance en lui. Amen. Je vous invite à lire avec moi dans Habakkuk chapitre 1. On va lire les 4 premiers versets. Les versets déjà qui annoncent la couleur pour moi. Habakkuk chapitre 1, on va lire versets 2, 3 et 4. Ça suffira. Ça dit comme ça, jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Il n'a pas le temps, tu vois. Il annonce tout de suite. Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès et des conflits partout. Aussi la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements corrompus. Vous comprenez bien le contexte? C'est pas joli joli ce qui se passe. Et il faut comprendre ce qui se passait à l'époque. Le pays était totalement sous la corruption. Ça veut dire dans la sphère politique, il y avait de la corruption. Ça veut dire que socialement, moralement, il y avait de la corruption. Les leaders politiques étaient corrompus. Mais aussi les leaders religieux étaient des gens qui étaient corrompus à ce moment-là. Il y avait de l'abus de pouvoir, il y avait de l'abus sur les personnes. Et le système qui était en place faisait en sorte que les bonnes personnes finalement ne puissent pas gagner. Les riches exploitaient les pauvres en faisant pression sur les autorités. La loi est ignorée ou alors adaptée au bénéfice des plus influents. Les cours de justice étaient-elles corrompues par l'argent? Du coup, les rues, elles, la manifestation du peuple, ça devenait de plus en plus violent. Il y avait des crimes, il y avait des viols, il y avait des enlèvements. Et le comble de tout ça, c'est que les gens s'appauvrissaient au bénéfice, finalement, des plus riches, puisqu'ils devenaient dépendants de ces riches. Et je ne sais pas si ça fait écho à quelqu'un ou à une époque que vous connaissez aussi. Moi, j'ai l'impression que sur pas mal de points, les choses n'ont pas tant évolué que ça. Et je vous parle là d'un fait qui est 600 ans. On est dans l'an 611 avant Jésus-Christ. Ça fait quand même quelques années, on est d'accord. Et j'ai l'impression que par moments, on se confronte aux défis similaires. On est sur le règne de Jéhoiakim. Et les historiens, eux, ils s'accordent et ils concluent la chose suivante. Ils disent, les sociétés finalement retombent toujours sur les mêmes travers. Pour une raison particulière, c'est que les gens n'apprennent pas de l'histoire. On n'apprend pas les leçons de l'histoire. Et ça peut être une complication. Et c'est vrai, c'est indéniable. Il existe aujourd'hui une véritable évolution culturelle et sociale. On peut le voir au travers de nouvelles technologies, on peut le voir aussi au travers de l'avancée scientifique. Le 20e et 21e siècle particulièrement, il y a une accélération considérable, c'est un fait, on le comprend. Mais aussi, ce qui est un fait, c'est que le cœur de l'homme n'a pas changé. Le cœur et les intentions de l'homme restent inchangés, et ça depuis l'époque de Caïn. Le mal est dans le cœur de l'homme, il est incrusté. L'homme reste profondément égoïste. Il a soif de pouvoir et ne cherche qu'une chose, c'est lui être aimé. Et quand je parle d'homme, je parle aussi de femme, vous le comprendrez bien. Et ce qui m'étonne, moi, de ce passage et de ce qu'on vit ici, c'est que le prophète Habacuc, sans introduction, okay, sans faux-semblant, de but en blanc, il vient et il parle à Dieu. Et il lui pose des questions. Mais au travers de ces questions, il est en train de confesser sa confusion. Et un message fort pour moi est transcrit. Voici ce que j'entends, moi, dans ce message. C'est pourquoi le mal est-il en train de gagner ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que le mal avance ? Et je ne sais pas vous, mais par moments, on peut constater qu'au fait mondial, on n'a pas l'impression que c'est l'évangile qui avance. On a l'impression que c'est le mal qui avance. Les choses deviennent de plus en plus terribles. Et c'est difficile, c'est fort. C'est une réalité dans notre contexte sociétaire mondial. Le mal semble triompher, que ce soit sur le plan moral, que ce soit sur des questions de racisme, mais aussi sur des questions de santé. On a l'impression que toutes ces choses ne vont pas dans le bon sens. Et il y a un texte qui m'interpelle parce que face à ça, on est comme dans l'incompréhension. Et il y a un texte, moi, qui m'interpelle et que j'ai à cœur de vous partager. C'est Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, lui, va parler et il va dire quelque chose au chapitre 8, verset 14. Je vous le partage dans la version Parole de vie, puisque c'est la version qui me semble, pour le texte, le plus pertinent. Il dit « Pourtant, voici encore une situation sur terre qui n'a pas de sens. Certains agissent bien, mais ils sont traités comme ceux qui agissent mal. Et d'autres agissent mal, et ils sont traités comme ceux qui agissent bien. Je le dis encore, cela n'a pas de sens. » Et je crois que nous, tout au long de notre vie, on s'est retrouvés face à des moments où les choses, on dirait qu'ils n'ont pas de sens. Par contre, on ne peut pas ignorer qu'il y a des choses négatives qui arrivent effectivement, non pas à cause simplement du hasard, mais plutôt à cause de mauvais choix, à cause d'une mauvaise utilisation du libre arbitre. Et ce qui fait que, par nos propres conduites, nous pouvons provoquer de réels problèmes, des réels dégâts en fait. Par exemple, en étant parents, nous, on peut provoquer des vrais problèmes dans nos familles. Et les enfants pourront ensuite demander, s'ils s'approchent de Dieu, ils demandent à Dieu, mais pourquoi est-ce que dans ma famille, on vit de la violence? Pourquoi dans ma famille, il semble avoir une injustice? Pourquoi dans ma famille, il y a du favoritisme? Qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Et là, Dieu va leur répondre, il va leur dire, ça, ce n'est pas ma responsabilité, ça, c'est la responsabilité de tes parents. Je ne suis pas responsable de ça. Eux, ils avaient un choix. Nous avons un choix. Et moi, ça m'interpelle. Pourquoi ? Parce que Dieu aussi nous dit autre chose. Dieu dit, maintenant, si tes parents se sont trompés en faisant des mauvais choix, en allant dans des mauvaises voies, dans des mauvais chemins, eh bien, toi, tu n'es pas condamné à suivre leur exemple, par contre. Si dans ta maison, il y a eu du divorce, il y a eu de la violence, il y a eu de l'abus, eh bien, tu as maintenant la possibilité, parce que si tu viens à moi, on peut briser ces chaînes ensemble. Et les générations qui vont suivre ne sont pas obligées de subir ce qui a été fait dans le passé. Et ça, c'est la puissance de l'Évangile, mes amis. Dans l'Évangile, la Bible dit « Toutes choses sont devenues nouvelles à ceux qui sont en Christ. » Amen. Et pour revenir à ce texte d'Habacuc, qui s'adresse à Dieu comme ça, parce que je ne sais pas, vous, mais moi, ça m'interpelle qu'il pose des questions comme ça. Il est assez direct quand même, hein. Et c'est des questions qu'on peut dire osées. Et moi, je me rappelle la première fois que j'ai été voir Nathalie chez elle. C'était un samedi, on commençait à se fréquenter. Et Nathalie, en fait, elle est enfant de pasteur et ses parents étaient implanteurs d'église. Et l'église qu'ils avaient implantée, c'était une extension de la maison, là-bas. Et un jour, je vais la retrouver le samedi matin, parce qu'en semaine, elle travaillait beaucoup, elle finissait tard le soir. Je vais la voir un samedi matin. Et là, sa maman, elle me dit, écoute, Nathalie n'est pas ici, elle est dans le temple, elle est en train de prier.
Oh, waouh, femme spirituelle.
Et du coup, elle m'a dit, par contre, tu peux aller la retrouver, il n'y a pas de souci. Et je vais la retrouver, et là, je vois Nathalie étendue par terre, comme ça, les bras ouverts, comme ça, par terre. Et j'étais un peu choqué, hein, et elle priait. Hein. Mais ce qui m'a choqué encore plus, c'était ce qu'elle disait à Dieu. Elle était là, en train de prier, une petite confession entre nous et tous ceux qui nous regardent. Elle était là, en train de prier, et disait, « Seigneur, tu vois que mes parents sont tes serviteurs, pourquoi les gens les critiquent autant ?» Pourquoi est-ce qu'on vit des injustices? Pourquoi les gens parlent derrière? Elle commence comme ça. Mais fais, il faut que tu fasses quelque chose là. J'ai besoin de voir ta main, j'ai besoin. Et moi, j'avais envie de lui dire, mais comment tu parles à Dieu, toi? Mais j'étais interpellé par ça. J'étais interpellé. Et surtout, ce qui m'a interpellé encore plus, c'est qu'elle se relevait de là, apaisée. Et moi, j'ai compris une chose, et on peut le constater aussi au travers de ce texte, c'est que l'attitude d'Habakouk en posant des questions à Dieu, finalement, ce n'est pas une attitude anti-biblique. Ce n'est pas du tout anti-biblique, c'est très biblique. On a le droit d'interroger Dieu. On a vraiment le droit de pouvoir lui poser les questions qu'on a besoin de lui poser. Pourquoi ? Parce que notre pensée à nous, elle est finie et elle se confronte à l'infini de Dieu. Nous, on voit simplement, on met le focus sur ce qui est en train de se vivre maintenant, mais Dieu connaît ce qui était avant et ce qui va se passer après. Et face à ça, on a besoin de pouvoir l'exprimer à Dieu, de pouvoir poser les questions. Mais attention, une chose, c'est de poser des questions à Dieu. L'autre chose, c'est de venir juger Dieu, juger ce qu'il est en train de faire. Et la ligne, elle peut être fragile. Pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas gêné lorsqu'on lui dit, écoute Dieu, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Je ne comprends pas ce qui se passe dans ma famille. Je ne comprends pas ce processus. Avec mon travail, j'ai l'impression que ça n'avance pas, je vis cette crise, je ne comprends pas. Ça, c'est une chose. Mais une autre, c'est de venir gronder Dieu et pouvoir lui dire, mais t'étais où? Ou alors, t'as pas tenu parole finalement. Tu avais dit que t'allais être avec moi, tu avais dit que t'allais m'aider, mais je te vois pas. T'es où là? On se comprend ou pas? Il y a une question d'attitude de cœur. Il y a des gens comme ça. J'ai l'impression qu'ils veulent apprendre à Dieu à être Dieu. Il faut qu'on fasse attention. Parce que dans les deux exemples, il y a des questions. Mais dans ces deux exemples, c'est finalement l'attitude de cœur qui détermine le vrai disciple du faux disciple. Et moi, ça m'interpelle. Ça m'interpelle parce qu'on va vivre et on vit des saisons de souffrance, de douleur. Et aujourd'hui, je veux particulièrement parler à toutes ces personnes, peut-être qui sont là en train de nous regarder sur Internet. Et je me dis, il y a des personnes qui sont en train de vivre un processus tellement terrible. Il y a des personnes qui ont eu des pertes importantes. Il y a des personnes qui vivent des problèmes qui ne veulent pas forcément le dire à tous parce que c'est des problèmes profonds et c'est des problèmes concrets. Et je veux parler particulièrement à ces personnes qui vivent des processus. Okay ? Si ta vie va très bien aujourd'hui, gloire à Dieu, ce n'est peut-être pas pour toi ce message. Mais je veux parler aux désespérés. Il y a peut-être des désespérés ici. Ne levez pas la main, ne vous inquiétez pas. OK ? Quand la douleur vient, quand la souffrance arrive, je crois qu'on a deux propositions devant nous. On peut faire deux choses. Soit exclure Dieu de ce qu'on vit, soit inclure Dieu dans ce qu'on vit. Mais il faut savoir que exclure Dieu de ce qu'on vit, exclure Dieu de nos souffrances est une forme d'autopunition. Et Pasteur Didier, il parle souvent de se sentir disqualifié, de se disqualifier soi-même. Exclure Dieu de nos souffrances, c'est ne pas comprendre la grâce, c'est ne pas saisir la grâce. Mais ce qui est encore pire, exclure Dieu vient à s'abandonner dans une sorte de fatalité. Et c'est là où on entend ce genre de discours de « Ah, les choses ne changeront jamais. On ne trouvera pas de sortie à ça. Oh, mais de toute façon, ça, là, je le mérite. La souffrance que je vis, là, je la mérite. Et puis, je dois payer pour ça, de toute façon. » Et les gens sont fermes. Ils disent « Je suis foutu, c'est fini pour moi. » Mais quand on inclut Dieu, les amis, dans nos souffrances, les choses changent. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'inclure Dieu dans nos vies, c'est accepter que le moment que nous vivons, que ce soit beau ou pas beau, fait partie d'un processus dont Dieu a le contrôle. Parce que
Je peux te l'assurer, toutes les souffrances vécues avec Dieu dans nos vies, elles nous font soit grandir, soit progresser. Et effectivement, ce n'est pas du tout ce qui nous plaît, ce n'est pas du tout ce qu'on voudrait. Mais là aussi, je parle de toutes ces souffrances en plus de cœur. Vous savez, ce genre de moment où on vit une déception. Où on estimait quelqu'un. Et ce quelqu'un nous trahit. Ça nous fait mal, ça. Ou alors, on vit un décès. Ou alors, vous voyez les choses qui se vivent là à l'intérieur. Pas forcément matérielles. Je te parle des choses qui te blessent. Ou alors des saisons où nous ne comprenons pas parce qu'on vit injustice sur injustice. Mais l'apôtre Paul, il nous dit, et il nous fait comprendre une chose quand on inclut Dieu dans nos processus. Voici ce que Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 et 9. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 et 9, il nous dit, « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. » Il nous dit, « Nous sommes inquiets, mais non désespérés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non anéantis. » Voilà ce qui se passe quand on inclut Dieu dans nos processus et dans nos souffrances. Et pour moi, c'est une révélation importante, mais toute révélation, elle nous vient simplement par la foi. Tu ne peux pas forcément le comprendre, mais par contre, tu peux le croire. Pourquoi ? Parce que ce que tu comprends, finalement, peut stagner ici. Alors que ce que tu crois, finalement, est une révélation qui arrive ici. Et ça change tout. Et j'ai vécu, il n'y a pas très longtemps, une saison compliquée avec ma famille large, au sens large. Et ça est venu bousculer, ça est venu remuer tout mon intérieur, parce que j'y trouvais certaines stabilités, et Dieu était en train de déraciner des choses en moi. Et quand j'ai terminé cette saison, finalement, j'ai terminé par dire ceci. Je me rappelle avoir dit à Dieu, « Écoute, je ne comprends pas forcément tout ce qui se passe. Je ne comprends pas, je suis désolé. Je n'arrive vraiment pas à comprendre tout ce qui est en train de se passer actuellement là. Qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui avance pas, comment est-ce que les choses sont en train d'évoluer. Je ne comprends pas ça. Mais par contre, je prends la décision de te faire confiance. Je veux garder la confiance en toi. Je veux garder la confiance en toi parce que je sais que toi, tu es là. Je sais que tu ne m'abandonnes pas et je sais que tu veilles sur moi. » Et ça, c'est une assurance ferme, les amis. Et cette assurance, on l'a parce qu'on développe une relation avec Dieu. Je ne dis pas que je suis meilleur que toi, crois-moi, non. J'ai vécu des situations où j'ai réagi, pas forcément comme un exemple. Je suis humain aussi. Mais je crois qu'il y a une chose qui est puissant, c'est pouvoir mettre notre confiance en Dieu. Pour la première fois dans cette situation, ça m'a poussé finalement à vraiment inclure Dieu, mais vraiment dans tout le processus. Et je devais avoir un certain positionnement, je devais prendre des décisions. Et ce n'était pas facile. Hein. Mais j'ai dit, Dieu, je te consulte. Toi, qu'est-ce que tu en dis? Comment est-ce que toi tu vis ça? Comment est-ce que toi tu gérais? Quelle serait toi ta réaction? Et je veux te laisser parler au travers de moi. Je ne veux pas arriver avec la colère envers l'autre. Je ne veux pas arriver en jugeant l'autre. Non, ce que je veux, c'est avoir tes paroles. Et je ne veux pas faire des gestes mauvais. Je ne veux pas être déplacé. Non, je veux avoir les attitudes qui t'honorent, en fait. Et là, je me suis senti transporté par Dieu. Et j'ai eu même des gestes, j'ai eu même une attitude qui a permis de débloquer des situations. Ça, c'est la puissance de Dieu, les amis. Ce n'est pas les facultés humaines. Je crois qu'on a besoin de ça. Inclure Dieu dans nos situations les plus délicates. Inclure Dieu dans nos moments les plus difficiles. Dieu m'a surpris. Il m'a surpris parce que dans cette situation-là, il a fait au-delà de ce que je pouvais espérer. Dieu est capable de faire d'immenses choses dès lors qu'on l'inclut. Habacuc, c'est très très fort ce qui va se passer. En fait, Habacuc a crié à Dieu et il va recevoir la réponse de Dieu. Ok ? Alors il faut comprendre. Hein. Habacuc crie à Dieu. Il est désespéré, il est confus, on est d'accord ? Il ne comprend pas ce qu'il vit. Et là, il a la réponse de Dieu. Regardez avec moi, chapitre 1 au verset 5. Voilà ce qu'il va dire. « Jetez les yeux parmi les nations regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croirez pas si l'on vous racontait. Là, Habakkuk, il a dû se dire, « Oh Seigneur, ça y est, c'est ma délivrance. Le ciel va s'ouvrir, je vais avoir le miracle. C'est mon moment là !» Sauf que, il faut lire le verset d'après. Lisez avec moi, juste le verset d'après. Le verset d'après, il nous dit, « Je vais faire surgir les Babyloniens. » Qui comprend ça? Qui comprend ça? Attends, Dieu... T'es au courant de ce qu'on vit là ou pas? Dites avec moi, réponse inattendue. Ce peuple impitoyable et impétueux qui traverse de vastes étendues. Ça veut dire, un peuple plus mauvais que nous, il va venir nous envahir. Alors là, pour Habakkuk, c'est le drame, les amis. C'est le drame. Pourquoi? Parce qu'Habakkuk, déjà, il était dans la détresse. Habakkuk, il était confus. Et la réponse de Dieu, c'est une réponse inattendue. C'est le titre de mon message. Et la réponse de Dieu, en plus, vient le confondre encore plus. Mettez-vous à sa place. Si Dieu te répond comme ça, non, après on va en parler, mais... Il dit qu'ils vont subir une invasion militaire. Et ce n'est absolument pas ce qu'Habakkuk aurait espéré. Mais j'ai envie de vous dire, les amis, combien de fois on a prié à Dieu, et finalement la réponse de... La réponse de Dieu vient être complètement le contraire de ce que nous on attendait. N'est-ce pas? Est-ce que c'est pas difficile à ce moment-là de faire confiance? Pourtant, c'est le moment de faire confiance. C'est le moment de faire confiance. Parce que, imagine-toi, tu attends la délivrance de Dieu. Tu attends, tu es une situation bloquée dans ton travail. Et les situations ne se défendent pas. Et les situations se compliquent. Ou alors, imagine tes finances, tu attends que ça se débloque. Ça ne se débloque pas. Ou alors un bilan de santé positif et ça ne vient pas. Et si Dieu parlait aussi au travers de ces circonstances, est-ce qu'on se l'est déjà dit ça? Et si Dieu parlait au travers de ça, je crois qu'on ne voudrait pas l'entendre. Je crois que par moment, il y a des réponses qu'on ne veut pas entendre de Dieu. Il y a des réponses dans lesquelles nous-mêmes, on fait un blocage. Quand tu passes des moments difficiles et que Dieu semble te dire, il va falloir tenir encore parce que le processus n'est pas encore fini. Est-ce que je parle à quelqu'un encore ce matin? Mais je veux te dire quelque chose. Les voix du Seigneur ne sont pas nos voix. Les voix de Dieu ne sont pas les nôtres. Et je suis convaincu que la seule chose qui nous permet de tenir dans la durée en tant qu'enfant de Dieu, eh ben c'est notre confiance en lui. C'est la seule chose. On a des raisons par moment de vouloir tout laisser tomber. Et on peut arriver dans des extrêmes. Il y a des moments où on baisse les bras. Il y a des moments où on veut lâcher parce que c'est tellement compliqué. Parce que c'est une énième fois, encore une fois, on subit. Mais j'ai un message de la part de Dieu pour toi. Va avec moi dans Ésaïe chapitre 40, verset 29. Ce verset est venu s'incruster dans cette prédication tellement fort. Il est dit que Dieu redonne des forces à celui qui faiblit. Il dit qu'il remplit de vigueur celui qui n'en a plus. Celui qui n'en peut plus, Dieu le remplit de vigueur. Toi qui penses être au bord du précipice, toi qui penses être arrivé à la fin de ton processus, toi qui penses lâcher, peut-être juste en sortant d'ici, Dieu te dit, je suis capable de te donner encore des forces. Et pourquoi? Parce que finalement, Dieu est le spécialiste de nous mettre devant des défis qui nous semblent insurmontables. Pourquoi? Parce qu'il a un objectif, c'est qu'on lui fasse confiance et qu'il veut nous montrer sa gloire. Rappelle-toi, le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël, quand il est en Égypte, il est en esclavage. Des années en esclavage, ok? Des années de souffrance. Qu'est-ce qui se passe? Moïse vient, le peuple est délivré. Oh là là! Alors là, c'est fini! Leur processus, leur souffrance, ils se disent c'est la fin. Et en plus, on nous promet une terre promise. Bam! On y va, on sort. Je pense que les gens étaient là, libres de courir. Ils étaient en chemin et tout, ils profitaient, ils savouraient un instant de liberté. Et à ce moment-là, paf, la mer rouge. La mer rouge? Tu dis, mais comment on va faire? Et encore pire, Les ennemis arrivent, les chars et tout, ils entendent de loin. Les Égyptiens, ils viennent pour les tuer. Les Égyptiens viennent pour les finir. Les amis, parfois on est devant des extrêmes. Mais il y a deux choses. Dieu veut que tu aies confiance en lui parce qu'il veut te montrer sa gloire. Regarde ce qui se passe. Dieu dit à Moïse, mets le bâton, la merceau. Déjà, c'est incroyable. Parce que Dieu, dans nos situations les plus critiques, il fait toujours des miracles. La mer s'ouvre. Eux, pas seulement ils traversent au sec et ils se retrouvent de l'autre côté, mais la mer se referme sur leur ennemi. Je ne sais pas ce qui te persécute et je ne sais pas si aujourd'hui tu es devant la mer rouge, mais ce que je crois, c'est que quand Dieu va ouvrir, pas simplement tu vas passer de l'autre côté, mais Dieu va en finir avec tes ennemis. Dieu est capable de faire ça. Toi qui es angoissé, toi qui vis peut-être la saison la plus difficile que tu as dû vivre jusqu'à aujourd'hui, je suis là pour te dire, il y a encore l'espoir. Dieu est encore capable de faire. Dieu veut encore manifester sa gloire au milieu de ta situation. Quelqu'un dise amen. Dieu n'avait que cet objectif, montrer la gloire. Mais il fallait compter sur Dieu. Il fallait compter sur Dieu. Habakkouk, et je vais finir avec ça. Habakkouk, devant ces circonstances difficiles, il a été exposé à prendre une décision. Et voici la décision qu'Habakkouk va prendre. Allez avec moi dans Habakkouk chapitre 2, au verset 1. Voici la décision qu'Habakkouk va prendre. Habakkouk va dire, « Moi, je vais rester à mon poste de garde, j'attendrai comme le guetteur sur le rempart pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. » Vous savez ce qui se passe là? Vous savez ce qui est en train de se passer là? Habakkouk décide de faire confiance à Dieu et d'attendre que lui il fasse. Et pourquoi ça m'interpelle? Parce que nous, devant les situations les plus difficiles, on veut remuer Dieu. On veut le secouer. On veut lui dire, mais agis, fais quelque chose. Et Habakkouk, l'histoire d'Habakkouk nous dit quoi? Nous dit, attends. Et juste, fais confiance encore. Fais confiance, je vais faire, mais j'ai besoin de voir ta confiance. Pourquoi? Parce que la confiance, c'est la manifestation de la foi qu'on a en lui. Et c'est pas la tristesse qui fait bouger Dieu. Ce n'est pas non plus le fait qu'on lui crie à lui qui fait bouger Dieu. C'est notre foi qui fait bouger Dieu. Le fait que tu espères, le fait que tu sois confiant en Dieu, c'est ça qui remue le ciel. Et c'est complètement à l'inverse de ce qu'on pense. Nous, on pense qu'il faut y aller avec ceci, avec cela, avec cela. Et Dieu te dit, calme, juste attends. Je sais ce que tu passes, je sais que tu es au bord, je sais que tu n'en peux plus, mais moi, je sais ta limite beaucoup plus que toi. Habakkouk, je me dis, aurait pu tomber dans l'autre extrême. C'est-à-dire que Habakkouk, légitimement, il aurait pu laisser tomber. Il aurait pu abandonner. Il aurait pu se dire, non, écoute, je t'ai servi. Écoute, avant de venir à toi, avant de te poser ces questions, tu as vu combien j'ai passé dans la prière, combien j'ai passé peut-être dans ce temps à part où je me suis consacré à toi. Et toi, tu me donnes cette réponse. Écoute, c'est bon. Cherche-toi peut-être un autre prophète. Moi, je ne peux plus, je ne peux pas faire ça. Mais Habakkouk, il n'a pas eu cette... Vous voyez, Habakkouk, il aurait pu tomber dans ce qu'on appelle l'amertume. Il aurait pu basculer dans l'amertume à cause de la situation grave qu'il vivait. Et je pense que parmi nous et par moments dans les églises, il y a des gens qui tombent dans cet extrême-là, qui n'ont pas réussi à tenir dans la confiance et du coup ils tombent dans l'amertume. Et vous savez à quoi on reconnaît quelqu'un dans l'amertume? À sa facilité qu'il a pour critiquer. Il y a des gens qu'on dirait qu'ils sont experts dans la critique. Ils te critiquent pour ce que tu fais, pour ce que tu ne fais pas, pour ce que tu dis, pour ce que tu ne dis pas. Et ils ne te proposent même pas de solution parce que ce n'est pas leur affaire. Ça manifeste un cœur profondément amer, un cœur qui a besoin d'être guéri par Dieu. Et encore plus, la Bible dit, devant de telles personnes, il faut s'éloigner. C'est incroyable. Mais on peut tomber dans cette bascule-là et que Dieu nous garde. Amen. Habakkuk va dire ceci. J'attendrai comme un guetteur. Ça veut dire quoi? Eh bien, je vais veiller. Je vais rester réveillé. Petit message au passage. On arrive à l'été. On est à Paris. Juste en sortant de la porte là, vous avez toutes les tentations pour tomber. Il n'y a qu'une seule solution, c'est de veiller. Veiller. Et lui dit, je vais attendre ta réponse, Seigneur. Et je vais veiller, je vais rester attentif à ce que toi, tu vas dire. Combien de fois, nous, les amis, combien de fois, nous, on peut se tomber, on peut s'identifier à cette situation d'Habakkuk. Ce n'est pas forcément le message ou les réponses qu'on voudrait, les amis. Mais ce qui est encore... La foi, c'est de croire que les réponses qu'il nous donne, ce sont les réponses nécessaires pour nous. Parce que quand tout est beau, quand tu as les pluies de bénédiction, quand on dit oui, validé, porte ouverte, ça va. Mais quand les choses bloquent, quand il y a de la lutte, quand il y a de la souffrance, mes amis, il n'y a qu'un seul chemin, ça s'appelle la confiance en Dieu. Faire confiance à Dieu, c'est s'abandonner dans ses bras. C'est ça, faire confiance à Dieu. Et Habakkuk, le nom Habakkuk, et je vais finir avec ça. Habakkuk, ça veut dire ça. Ça veut dire s'abandonner dans les bras, enlacer en fait. C'est ça que ça veut dire le mot Habakkuk, prendre dans les bras. Et même si je ne trouvais pas beaucoup de sens au début, mais pour moi, finalement, ça a beaucoup de sens puisque je me rends compte que Dieu nous tend les bras, c'est un signe d'espoir pour nous. Ça veut dire que si nous nous attachons à Dieu et que si nous nous laissons enlacer par Dieu, alors on va y arriver. Cette étape passera aussi. Cette saison aussi moche, aussi difficile que ça puisse te sembler, ne sera pas éternelle, mon ami. Ça va passer, mais il vaut mieux que tu les passes dans les bras du Père. Habakkuk, ça veut dire ça, dans les bras. Et je crois qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont besoin de venir dans les bras du Père. On se met debout ensemble, les amis. Et je vais m'adresser à la caméra parce que peut-être qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut enlacer Dieu, mais qui se dit, je ne peux pas t'enlacer, Seigneur, parce qu'il y a du péché en moi. Et ce péché fait que je ne peux pas venir à toi. Et bien aujourd'hui pour toi, il y a une possibilité de pardon. Parce que ce n'est pas simplement toi qui as envie de venir à Dieu, c'est surtout Dieu qui a envie de t'accueillir. Et c'est pour ça que Dieu nous amène dans ces terrains de réconciliation. Et la réconciliation, elle est là aussi pour toi. Toi qui nous regardes et vous qui êtes ici aussi. Il y a des personnes peut-être qui sont éloignées et qui ont besoin de se réconcilier avec Dieu pour encore s'attacher, pour encore rester en confiance, parce qu'ils savent maintenant que Dieu aura le dernier mot sur leur situation. Et je vais inviter ces personnes au pardon. Je vais inviter ces personnes à la réconciliation au travers de cette prière de foi. Je vous invite à prier, à fermer vos yeux là où vous êtes. Et s'il y a quelqu'un qui aujourd'hui a besoin de donner sa vie au Seigneur, s'il y a quelqu'un qu'aujourd'hui il se dit, je veux prendre la main tendue de Dieu, je souhaite que simplement tu puisses faire cette prière avec moi. Tu puisses dire, Jésus, bienvenue dans ma vie, bienvenue dans mon cœur. Même si je t'ai rejeté, bienvenue dans ma vie. Seigneur, je reconnais mes péchés, je reconnais mes torts aujourd'hui. Et je me suis éloigné de toi, mais Seigneur, merci parce que par ton pardon, tu m'approches à toi. Et je veux enlacer ton pardon qui me vient simplement par ton amour et par ton esprit. Seigneur, je reconnais que tu es mort, mais que tu es ressuscité d'entre les morts. Et si ce n'est pas encore fait, Seigneur, inscris maintenant mon nom dans le livre de la vie. Seigneur, accueille-moi parce que j'ai besoin de toi, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un en ligne qui a fait cette prière pour la première fois, s'il vous plaît, écrivez-nous, on veut le savoir. Et je voudrais prier enfin avec ceux qui sont ici présents aussi. Si quelqu'un se sent concerné par la parole de Dieu, levez la main là où vous êtes simplement et dites, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je suis au bord. C'est très dur pour moi là. C'est dur de croire dans ma situation. Mais aujourd'hui, Seigneur, je prends la décision d'espérer en toi. Je prends la décision de te faire confiance. Tous les paramètres autour de moi me disent d'abandonner, mais moi, je ne veux pas écouter les paramètres. Moi, je veux écouter ta parole, parce que ta parole, c'est la vie et la vie en abondance. Alors aujourd'hui, Seigneur, tel que je suis, Seigneur, je veux m'attendre à toi. Je veux te faire confiance. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas opérer dans ma vie. Je te présente ma situation. Et je veux te laisser quelques instants simplement pour que tu puisses présenter cette situation. S'il y a quelqu'un qui est pris en ligne, prends quelques instants. Présente ta situation à Dieu. Dis-lui, voici ma situation, Seigneur. Et je ne veux pas venir vers toi avec des reproches. J'ai des questions, Seigneur, mais je veux avoir la bonne attitude, Seigneur. Je ne veux pas me prendre pour Dieu. Je ne veux pas t'apprendre à faire ce que tu dois faire, mais j'ai besoin de te l'exprimer. Et aussi, j'ai besoin, Seigneur, de mettre toute ma confiance en toi. Merci, Jésus. Merci, Jésus, parce que tu m'écoutes. Parce que tu agis. Merci, Père. Merci pour ta bénédiction et pour ce culte, Seigneur, entièrement en ligne qu'on a pu faire aujourd'hui. Pour cette victoire, Seigneur, parce que tu nous permets d'avancer. Seigneur, merci parce que tu as pourvu à tous ces besoins techniques. Seigneur, merci. À toi, on te rend la gloire. Conduis-nous en ce dimanche, au nom de Jésus. Amen. Soyez tous bénis, on peut acclamer Jésus. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Soyez tous bénis. Amen. Je vais demander aux équipes d'accueil qui puissent s'approcher, restez à votre place. Ils vont vous donner les consignes pour pouvoir sortir. Merci à chacun d'entre vous de vous être déplacés. On vous attend dimanche prochain. Soyez tous bénis et demeurez confiants en Dieu. Amen. Merci mon ami.